La croyance dans la résurrection des corps est une croyance fondamentale, essentielle du christianisme. On le trouve en particulier dans le symbole des apôtres, le credo, où il est dit « Je crois à la résurrection de la chair », où c'est affirmé comme une sorte de chose incontournable, et aujourd'hui peu de chrétiens osent se distancer par rapport au symbole des apôtres, même si je pense qu'on peut le faire. Et d'autre part, la croyance dans la résurrection des corps se trouve aussi essentielle dans le christianisme par le fait qu'elle est liée à une autre croyance, aussi vue comme un des fondements incontournables de la foi chrétienne, c'est la résurrection du Christ. En effet, le message du Nouveau Testament et surtout des épîtres de Paul, c'est de nous dire que le Christ ressuscitant est le premier, je vais dire, d'une longue série de tous ceux qui ressusciteront, c'est-à-dire que la résurrection du Christ est l'image de notre propre résurrection. Et que par conséquent, la résurrection du Christ n'est pas un phénomène isolé, c'est le modèle sur lequel nous tous, nous devons ressusciter. Or, on nous dit aussi que le christianisme réside fondamentalement dans le fait de croire dans la résurrection corporelle du Christ. Et si le Christ est ressuscité corporellement, alors il faut bien que nous aussi nous ressuscitions corporellement. Cela dit, vous le savez, tout cela est en même temps assez discutable. Parce que d'abord, dans la Bible, l'expression « résurrection des corps » n'existe pas. Dans la Bible, on parle de la résurrection des morts, pas de la résurrection des corps. C'est assez différent. Et d'autre part, la question de la résurrection du Christ est assez complexe. Et si en effet certains veulent voir dans ces récits des résurrections du Christ une résurrection très corporelle, vous savez aussi qu'un bon nombre de chrétiens y voient une image d'une résurrection beaucoup plus spirituelle, voire même d'une expérience spirituelle des disciples qu'ils exprimeraient d'une manière imagée. Et donc on ne peut pas en tirer tel quel, je dirais, un argument contraignant. Et puis par ailleurs, je crois que le message biblique n'est pas tellement, je dirais, n'est pas tellement une annonce d'une résurrection corporelle. Le message fondamental du Christ, ce serait plutôt l'annonce de la vie éternelle, ce qui n'est pas encore tout à fait pareil. La vie éternelle, c'est-à-dire qu'il y a dans l'existence humaine, dans notre vie à chacun, quelque chose de transcendant, quelque chose qui est au-delà des vicissitudes de l'existence et au-delà, je dirais, de toutes les conditions matérielles de vie, au-delà du fait que l'on soit riche ou pauvre ou jeune ou malade ou vieillard ou en bonne santé ou intelligent ou pas, au-delà du fait même que l'on soit vivant ou mort. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est une sorte de torrent infiniment plus fort que toutes les choses bassement matérialistes de ce monde. Donc oui, le message biblique, c'est la foi dans la vie éternelle, et vie éternelle qui peut être précisément comprise comme quelque chose de purement spirituel, et justement non pas du tout corporel. Alors pourquoi est-ce que, même si je pense, et je le dis là, qu'on n'est pas du tout obligé en tant que chrétien de croire dans une quelconque résurrection des corps, pourquoi est-ce que cette doctrine a pu avoir la moindre importance? Parce qu'elle en a eu, et elle en a encore. Donc mon propos, c'est bien celui-ci, je le reprécise. C'est que ma foi personnelle à moi serait plutôt d'aller dans le sens, je dirais, d'une vie éternelle d'ordre spirituel. C'est-à-dire que dans le fond, je ne crois pas à la résurrection des corps. Mais si on en a tant parlé dans le christianisme, c'est qu'il y a bien une raison. Et dans le fond, je voudrais essayer avec vous, si vous voulez, de ne pas, voulez, barrer d'un trait de plume rageur cette croyance dans la résurrection des corps en disant « bon, ben, ce sont des enfantillages ou ce sont des croyances médiévales », mais essayer de voir ce qu'il pourrait y avoir d'intéressant ou de pertinent, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il peut y avoir de récupérable, je dirais, dans cette idée. Parce qu'en même temps, je comprends un petit peu, peut-être, ce que l'on a pu vouloir dire quand on a enseigné cela, qu'on croyait dans la résurrection des corps. D'abord, je pressens quelque chose d'important, c'est que dans le christianisme, il n'y a pas de dévalorisation du corps, normalement, contrairement à ce qui a pu se passer dans un bon nombre de religions de type dualiste. Vous savez que dans certaines religions dualistes, on enseigne que le corps n'est rien et que l'âme, l'esprit est tout. Et que par conséquent, la mort est une chose merveilleuse parce que enfin l'âme est libérée de ce corps qui est une sorte de prison, une sorte de pourriture immonde. Et enfin l'âme peut se libérer de toute cette contrainte matérielle pour revenir à Dieu qui est purement spirituel. Le christianisme, normalement, n'enseigne pas cela. Il ne dit pas que le corps n'est rien, il ne dit pas que le corps est mauvais, mais il nous dit et il nous redit que notre corps est bon, qu'il est voulu par Dieu, qu'il est offert par Dieu, en quelque sorte, qu'il est un élément du don de la création. Et donc, il n'y a pas dans le christianisme une opposition, si vous voulez, comme certains ont pu le faire, entre une âme immortelle qui, elle, vivrait éternellement et un corps mortel qui, lui, serait uniquement destiné à disparaître. Il y a donc dans le christianisme une prise en considération du corps comme étant quelque chose de fondamentalement bon en soi. Donc si c'est le cas, qu'en est-il dans la résurrection ? Qu'en est-il dans l'autre monde, et quelle place peut avoir ce corps dans l'éternité? Si on ne lui en donne aucun, vous voyez que ça pose un petit problème sur le statut même du corps qui est relégué à quelque chose de jetable, je dirais, et qui n'a finalement aucune valeur essentielle et fondamentale. Et si le corps n'est rien, alors on peut en faire n'importe quoi, ce que ne dit pas le message chrétien. Eh bien, je pense qu'il ne faut pas, voir les choses d'une manière trop simpliste, évidemment. Et jusqu'à présent, peut-être que ma manière même de présenter le sujet empêche de pouvoir lui trouver une solution. Il est évident, pour moi en tout cas, qu'on ne peut pas croire à la résurrection des corps d'une manière enfantine, je dirais. Je ne pense pas que à la fin des temps, les corps dans les tombeaux vont se reconstituer et que les cadavres vont se relever en soulevant les dalles des tombeaux et enlever leurs bandelettes pour se saluer les uns les autres. Il est évident que ça ne se passera pas comme ça. Et en particulier, je ne pense pas qu'il y ait le moindre problème pour la résurrection de ceux qui se sont fait incinérer. Vous savez que ça a été et c'est encore un débat dans les églises chrétiennes. L'Église catholique n'a, à cause de cela, accepté l'incinération qu'assez récemment, c'est-à-dire en 1963. Et les églises orthodoxes, je crois, continuent, pour cette raison, de condamner l'incinération des corps, enfin des morts, en considérant que c'est une insulte au corps et que ça, finalement, pose problème pour la résurrection. Bon. Personnellement, je ne pense pas que l'on soit là dans une manière juste de concevoir les choses. De même, la résurrection des corps, prise d'une manière simpliste, est absurde. Parce que si vraiment nous devons ressusciter avec un corps dans l'autre monde, sous quelle forme alors ressusciterons-nous? Et en particulier, à quel âge? Et si en effet je dois ressusciter avec mon corps, alors j'aime mieux mourir en bonne santé à 30 ans et être pour l'éternité jeune, beau et fort que de mourir, je dirais, extrêmement âgé avec un corps débile et aigrotant et finalement souffrir d'être un misérable vieillard pendant toute l'éternité. On comprend bien qu'il y a là un problème. Les théologiens du Moyen-Âge s'étaient posé la question. Et ils ont dit, alors, nous ressusciterons avec notre corps. Mais alors, quel âge aura le corps ressuscité? Ça a été un débat terrible chez les théologiens du Moyen-Âge. Et Thomas d'Aquin a tranché. Il a dit, nous ressuscitons tous à 33 ans, parce que c'est l'âge du Christ. Voilà. Bon, c'est une façon de répondre, mais si on réfléchit bien, c'est absurde. Parce que pour un vieillard, c'est plutôt bien, il rajeunit. Mais dans le cas d'un petit bébé qui meurt, à quelques semaines, à quelques mois, alors lui, il va ressusciter à 33 ans, c'est-à-dire à un âge qu'il n'a jamais eu. Mais personne ne va le reconnaître dans le royaume de Dieu. Le petit bébé qui meurt, s'il ressuscite, il ressuscite toute sa vie comme une petite merveille de petit bébé. Il ne peut pas ressusciter autrement dans mon esprit. Et donc l'histoire de Thomas d'Aquin, pour moi, ne colle pas. Ça n'est pas possible. Et pourtant, plutôt je crois que cette question est fausse, là encore. On ne peut pas ressusciter à un âge donné si nous ressuscitons, s'il y a une résurrection du corps. Parce que la vie est un tout. On a toujours l'impression que l'on possède son âge. J'ai 48 ans, vous avez 50 ans, 60, 80, je ne sais pas. Mais non, je n'ai pas 48 ans puisque hier j'en avais 47 et demain j'en aurai 49. Et par conséquent, notre âge est la dernière des choses que nous possédons. L'âge, c'est un curseur sur un tout, et la vie est un tout. Et aucun moment de la vie n'efface les autres moments. C'est la question qui est posée parfois pour ceux qui voient vieillir terriblement ceux qu'ils ont aimés ou leurs parents. Eh bien, le fait que quelqu'un, à la fin de sa vie, soit extrêmement âgé ou ait perdu une partie de ses capacités, n'enlève rien à ce que cette personne a été. Et moi, aujourd'hui, j'ai mon âge, mais moi-même, je suis aussi ce que j'ai été. Et si Dieu me prête vie, je suis aussi ce que je serai. C'est-à-dire que la vie est un tout, du début à la fin, sur laquelle un curseur se déplace. Et je ne vois pas pourquoi Dieu garderait pour l'éternité uniquement les derniers moments, ou uniquement les premiers, ou uniquement ce qui s'est passé à 33 ans. Par conséquent, le fait que quelqu'un de très âgé perde ses capacités mentales, par exemple, pour moi n'est pas un problème. Ça n'enlève rien de ce qui a été vécu avant. Par conséquent, je pense qu'on ne peut pas prendre trop en considération le corps. Parce que le corps est quelque chose quand même de très mouvant, de très difficile à cerner, quelque chose finalement de très passager et quelque chose dont nous avons conscience que finalement, c'est pas vraiment nous. Je dirais, quel point commun y a-t-il entre ce que je suis moi et ce que j'étais quand j'avais 6 mois? Si je vous montre des photos, vous ne me reconnaîtrez pas. Pourtant, je suis bien le même. Et le point commun entre ce que je suis aujourd'hui et ce que je serai peut-être à 110 ans avec un Alzheimer avancé, quel point commun entre les deux? Physiquement, aucun. Pourtant, c'est bien le même, c'est bien lui. Et c'est pourquoi les enfants sont attachés à leurs parents, même vieux, même s'ils ont perdu toutes leurs capacités, on les aime parce que c'est eux. Même si on ne les reconnaît plus physiquement, même intellectuellement ou autre, c'est quand même bien eux. Et donc on sent qu'il y a dans la personne quelque chose qui est au-delà du corps. Et quelqu'un qui a un grave accident et qui se trouve paralysé, eh bien, c'est encore lui, c'est encore elle, c'est encore cette personne. On peut lui enlever un bras, lui en enlever deux, lui enlever une jambe, lui enlever deux jambes, c'est encore elle. Et donc le corps reste quand même, il faut bien le dire, quelque chose qui n'a peut-être pas trop d'importance finalement dans notre existence. C'est bien ce que dit le Christ avec son débat avec les Sadducéens. Les Sadducéens se moquaient de lui. Parce qu'il disait « Ah, tu crois à la résurrection, mais c'est grotesque !» Et il explique cette histoire de la femme qui a eu 7 maris. Et il dit « Mais alors, dans l'autre monde, elle sera la femme duquel ?» Et Jésus leur dit « Mais attendez, votre question est ridicule. Dans l'autre monde, on ne prend pas femme ou mari, on est comme les anges dans le ciel. » Et là, Jésus va plus loin que nous, en général. Parce que nous, beaucoup d'entre nous pensons quand même, quand les gens disent « Mais est-ce que je retrouverai mon mari? Est-ce que dans l'autre monde ?» etc. On pense quand même qu'il y a quelque chose, finalement, de plus humain dans cette résurrection. Et là, le Christ semble aller dans une sorte de dépersonnalisation de la résurrection à un tel point que dans l'autre monde, la question n'est plus de savoir de qui on était le mari ou la femme. Je vous laisse ça comme interrogation, mais remarquez que le Christ va quand même assez loin dans ce sens. Et donc, si nous ressuscitons en Dieu, dans le royaume, oui, certainement, mais certainement aussi, je le crois, sous une autre forme, sous une forme non terrestre, sous une forme spirituelle, qui finalement n'a pas grand-chose à voir avec ce que nous sommes ici. C'est tout ce que dit Paul aussi dans sa lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens 15, quand il dit, vous savez, oui, bien sûr, on ressuscite, il y a la résurrection de la chair, mais la chair du corps ressuscité n'a rien à voir avec la chair terrestre. Autre est le corps céleste, autre est le corps terrestre. Et ça n'a rien à voir, c'est quelque chose d'une autre nature, et qui on est semé méprisable, on ressuscite glorieux, on est semé corps terrestre, on ressuscite corps spirituel, et c'est tout à fait différent, c'est une autre nature, ça n'a rien à voir. Bon, donc oui, il n'y a pas, je crois bibliquement, de possibilité d'une résurrection corporelle, je dirais humaine, où on se retrouverait comme on est dans une sorte de grand salon mondain. La vie éternelle, c'est plutôt, je dirais, une sorte de dire qu'il y a en chaque être quelque chose d'éternel, qu'en nous, il y a quelque chose qui justement est en quelque sorte sauvegardé par Dieu, et que notre vie éternelle, c'est peut-être ce que Dieu garde de nous. Notre existence, elle est sauvegardée dans la mémoire divine. Oui, beaucoup d'entre nous, beaucoup des humains aujourd'hui, plutôt de nos contemporains, pense que la résurrection ou la vie éternelle, elle se passe avant tout dans, je dirais, dans ce que nous avons transmis ou dans la mémoire qu'en ont nos survivants. Bon, c'est déjà pas mal, mais je crois que c'est plus que ça, parce que je crois qu'il y a une mémoire en Dieu et que Dieu garde dans son cœur toutes les belles choses de notre existence. Dieu garde dans une sorte de bibliothèque et il met dedans tout ce qu'il a pu cueillir de chaque existence humaine, chaque acte d'amour, chaque acte de bonté, chaque acte de gratuité, chaque accueil, chaque parole douce, tout cela, il le cueille, il le met dans un bocal marqué à notre nom. Et il dit, voilà, c'est ça. Et notre vie éternelle, c'est justement cette moisson divine de Dieu qui a gardé de chaque existence tout ce qu'il y avait de beau, tout ce qu'il y avait de transcendant, je dirais. Tout ce qu'il y avait qui était justement au-delà du cochon qui sommeille en nous. Mais en même temps, la résurrection, elle n'est pas seulement pour un autre monde. Elle est aussi, je crois, pour ce monde. Et là, je vais essayer de vous en expliquer un peu plus. Parce que, pour deux raisons. La première, c'est que Les questions de savoir ce qui se passera, je dirais, dans l'éternité, finalement, me semblent un peu oiseuses. Bon, vous verrez bien. Voilà. Ayez confiance en Dieu. Dieu vous sauvera. Il n'y a pas de problème. De toute façon, ce qui se passe dans l'autre monde est tellement différent de ce que nous vivons ici que nous ne pouvons rien y comprendre. Donc faites simplement confiance à votre Dieu et arrêtez d'ergoter. Mais je crois que la théologie n'est pas que cela. La théologie, c'est aussi pour ici-bas. Et ça nous concerne aujourd'hui et maintenant. De même, le message biblique, c'est bien de dire que le Christ est ressuscité dès ici-bas, et il est ressuscité dans ce monde. Et donc, sous quelle forme Jésus est-il ressuscité ici, et comment nos morts ressuscitent-ils dès à présent? C'est-à-dire, qu'est-ce que nous pouvons toucher, nous, de la résurrection ou de la vie éternelle de ceux qui nous ont quittés. Pour le Christ, c'est assez simple. Quand je parle de la résurrection du Christ, je ne parle pas de ce qui a pu se passer avant l'ascension, avec d'éventuelles apparitions que je laisse de côté, mais comment le Christ est-il aujourd'hui présent? C'est ça la question. On nous dit, l'Église repose sur ce message, Christ est ressuscité, Christ est vivant. Donc aujourd'hui, Christ est ressuscité et Christ est vivant. Question, comment aujourd'hui le Christ est-il vivant parmi nous? c'est-à-dire quel est le corps du Christ ressuscité ici même aujourd'hui au XXIe siècle. Là, la réponse semble assez évidente, c'est que le Christ est présent en esprit, évidemment, et qu'il est présent dans nos cœurs. Là où deux ou trois seront réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Christ est ici présent au milieu de nous et nous ne le voyons pas. Et donc le côté corporel de Jésus, voyez-vous, est quand même assez ténu, puisque nous ne pouvons pas l'apercevoir. Pour nos morts, il en est certainement un petit peu de même. Que reste-t-il d'eux ? Il reste déjà, comme je le disais, le souvenir que nous en avons. Il reste ce qu'ils nous ont transmis et ce qui nous fait vivre aujourd'hui. Eh bien, après tout, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et justement, si nous disons résurrection des corps, c'est peut-être pour dire que nous devons, dans cette idée de l'éternité de l'existence de chaque être, prendre aussi en considération la personne elle-même. C'est-à-dire que la résurrection, ce n'est pas simplement le message de dire bon, « il y a quelque chose d'éternel dans toute vie et puis finalement il y a une transcendance qui appartient à toute existence humaine ». Mais je dirais c'est pour contrer, d'une certaine manière, deux théories possibles. L'une, c'est la réincarnation. La réincarnation, c'est, vous savez, une âme qui passe d'un corps à un autre, finalement une âme impersonnelle et qui s'accommode très bien de différentes personnes. Le corps serait juste un avatar sans importance. Ou alors, l'idée que la mort serait une sorte de dissolution dans le grand tout, où finalement toutes les âmes retourneraient à Dieu et cesseraient d'être individualisées ou distinctes. Eh bien, le christianisme n'est pas dans ce domaine. Pour le christianisme, justement, l'individu est important. Sa façon d'être dans le monde est une chose essentielle. La façon que quelqu'un a d'être avec les autres, de se présenter, sa façon d'être au monde, la personne elle-même est sauvée. Il y a là quelque chose qui est, je dirais, l'individu lui-même. Et même si on ne parle pas de résurrection des corps, notre corps, c'est quand même la manière avec laquelle nous nous présentons dans ce monde, la manière avec laquelle nous sommes présents au monde, la manière avec laquelle nous entrons en relation avec les autres. Et je crois que dire que l'on croit dans la résurrection des corps, ce n'est pas croire dans la résurrection de la viande, si vous voulez, mais dans le fait que, justement, fait partie de l'âme, la façon que nous avons d'être quelqu'un, un individu, une personne, et que c'est ça qui est sauvé par Dieu. Dieu nous aime comme nous sommes, et en tant que nous sommes nous, en tant que nous sommes des sujets agissant dans ce monde et en étant en relation avec les autres. Parce qu'en effet, pour être capable de dire quelque chose de la résurrection des corps, il faut encore savoir le statut que nous donnons à notre corps, de notre vivant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, mon corps, c'est quoi ? Eh bien, j'aurais tendance à dire que pour moi, le corps a un rôle purement fonctionnel. Le corps, c'est, je l'ai déjà un petit peu avancé là, c'est l'action et c'est la relation. Le corps, c'est ce qui me permet d'agir dans ce monde, de faire des choses, de déplacer des objets, de construire des maisons. Et mon corps, c'est aussi ce qui me permet d'être en relation avec les autres, de vous parler, de vous entendre, de se comprendre, d'écouter, de communiquer. Alors, si on prend ces deux choses, le corps, premièrement, c'est l'action. Y a-t-il une résurrection des corps ? A priori, dans le sens action, non. Je crois que quand quelqu'un est mort, et il n'agit plus dans ce monde. Les morts ne sont pas dans le ciel à tirer les ficelles de ce monde, donc de ce côté-là, non, il n'y a pas de résurrection des morts. Encore que, revenons au Christ, puisqu'on nous dit que le Christ est le modèle de notre propre résurrection. Quel est le corps du Christ ressuscité ? Réponse de Paul, vous êtes le corps du Christ. C'est-à-dire que le Christ ressuscité a bien un corps, mais son corps n'est pas une apparence humaine. Son corps, c'est vous. Ce sont les croyants, c'est l'Église, Ce sont ceux qui sont fidèles à sa parole, à son évangile, ceux qui vivent du Christ, ceux en qui le Christ est présent. Et donc oui, si dans ce sens, le corps qui ressuscite, c'est une façon de continuer à agir dans ce monde par le message et la présence que nous avons laissé, oui, nos morts ont un corps ressuscité, dans la mesure où ils continuent par ceux qui leur succèdent, par leurs enfants, par ceux à qui ils ont transmis quelque chose, enfants ou non, ceux à qui ils ont transmis des valeurs, des convictions, des façons d'être au monde, eh bien, d'une certaine manière, ces gens-là continuent, je dirais, d'agir dans ce monde par leurs successeurs. Et d'une certaine manière, dire qu'il y a une résurrection du corps en tant qu'action, c'est bien de dire que notre action se prolonge après notre mort, parce que notre action n'est pas simplement ce que nous faisons, mais ce que nous inspirons à ceux qui peuvent agir à notre suite. Et d'autre part, si le corps est la relation, parce que oui, c'est vrai, le corps permet la relation, le regard, le toucher, et même, ça on le sait, quand on dit, je dirais, faire l'amour n'est pas qu'une chose purement corporelle ou physique, ça engage l'être, tout l'être, en bien plus que purement physique. Eh bien, c'est donc que l'on croit, si on parle de résurrection du corps dans le sens de relation, c'est que l'on croit qu'il y a dans la relation quelque chose d'éternel. Et ça, c'est dit très bellement encore par Paul, dans cette belle lettre en Corinthiens 13, où il dit, vous savez, tout passera, tout est passager, rien n'est éternel, ah, sauf trois choses. La foi, l'espérance et l'amour, et la plus grande, c'est l'amour. Effectivement, je crois que l'amour est la seule chose qui demeure éternellement de notre existence, et l'amour, c'est de la relation. Et par conséquent, c'est comme je le disais tout à l'heure, je crois que nous périssons, mais que ce qui demeure pour l'éternité, c'est l'amour qui a été vécu, l'amour qui a été partagé. C'est tous ces moments, toutes ces choses que nous avons données et tout ce que nous avons su accueillir et recevoir. Et ça, c'est éternel. Notre vie éternelle n'est constituée, n'est tissée, n'est fabriquée que de l'amour qui a été vécu. Tout le reste, on s'en fiche. Ça n'a aucune importance. Il n'y a que l'amour qui est éternel et qui est essentiel dans une existence. C'est pourquoi quand une pauvre veuve me dit « Ah, monsieur le pasteur, est-ce que je retrouverai mon mari que j'ai tant aimé dans l'autre monde ?» Je suis embarrassé, parce que dans le fond, j'aurais envie de lui dire « Bien sûr que non ». Mais pourtant, je crois que oui, parce que si elle l'a aimé, et si de tout son cœur il y a un lien d'amour essentiel entre elle et cette personne qu'elle a aimée, ce lien d'amour est sauvegardé pour l'éternité. Et donc, évidemment, elle ne sera pas coupée de celui qu'elle a aimé dans l'éternité. Sinon, ce serait dire que cet amour est cassé, disparaît, si vous voulez, avec la mort. Or, l'amour est éternel. Et donc, après avoir fait ce petit travail dans ma tête, et que comme cette personne peut-être fonctionne avec des schémas moins élaborés que ceux que j'ai la prétention d'avoir, eh bien, je vais lui dire, « Oui, madame, vous retrouverez votre mari dans l'autre monde, évidemment. » parce que vous l'avez aimé, et que dans l'autre monde, nous retrouvons tous ceux que nous avons aimés, et seulement ceux que nous avons aimés. Dans l'autre monde, nous retrouvons les autres que dans la mesure où nous les avons aimés, et dans la mesure où nous les avons aimés. Et ainsi, le bébé mort dont je parlais tout à l'heure, eh bien, il est dans le monde comme un petit ange dans le ciel, comme une petite boule de tendresse, de douceur éternelle. Non, il ne ressuscite pas à l'âge de 33 ans qu'il n'a jamais eu, mais il ressuscite comme sa mère l'a connu et comme sa mère l'a aimé. Et ça, pour l'éternité. C'est un trésor de l'humanité que cette tendresse, que cet amour maternel ou paternel, que cette dimension, cette relation, ça, c'est une merveille qui fait oublier toutes les violences du monde, toutes les guerres, toutes les jalousies, toutes les violences, toutes les duretés, toutes les avanies possibles. C'est une beauté du monde. Et cette beauté, elle est transcendante, elle est au-delà de tout et au-delà de la mort. Donc oui, il ressuscite comme il était. Et ça ne devient pas une sorte de pur esprit qui navigue je ne sais où entre l'éther première et l'éther secondaire. C'est pourquoi, finalement, après vous avoir dit que je ne croyais pas à la résurrection des corps, finalement, je vais y croire. Parce que même si ce n'est pas comme ça que ça se passe, dans le fond, C'est comme ça, moi, que je le vis, parce que moi, je suis incarné, je suis dans ce monde, et je crois que notre existence a quelque chose qui est sauvé par Dieu, et que Dieu nous aime comme nous sommes, et Dieu ne nous épluche pas en disant « bon, ça je garde, ça je jette ». Il nous aime tout entier, tout en bloc, et il nous sauve tout entier. Mais en même temps, il nous transfigure. Et nous sommes sauvés pour l'éternité, effectivement, dans ce monde éternel. Nous sommes sauvés par Dieu comme étant, je dirais, la beauté même, la beauté vue dans les yeux d'amour de Dieu, qui nous regarde simplement avec son regard de beauté et d'amour, qui nous recrée et qui nous rend lumineux, beaux et éternellement beaux et bons, c'est-à-dire comme étant uniquement des êtres d'amour, de lumière, de tendresse, de grâce, de bonté, de gratuité. Et c'est comme cela que nous sommes tous ensemble sauvés dans le royaume de Dieu. Amen.